Du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Il est proche celui qui me justifie. Quelqu'un veut-il plaider contre moi? Comparaissons ensemble. Quelqu'un veut-il m'attaquer en justice? Qu'il s'avance vers moi. Voilà, Seigneur mon Dieu, il prend ma défense. Qui donc me condamnera? Parole du Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu.
Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. J'aime le Seigneur, il entend le cri de ma prière. Il incline vers moi son oreille, toute ma vie je l'invoquerai. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. J'étais pris dans les filets de la mort, retenu dans le lien de l'abîme. J'ai prouvé la tristesse et l'angoisse. J'ai invoqué le nom du Seigneur. Seigneur, je t'en prie, délivre-moi. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Le Seigneur est justice et pitié. Notre Dieu est tendresse, le Seigneur défend les petits, j'étais faible, il m'a sauvé. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Il a sauvé mon âme de la mort, gardé mes yeux des larmes et mes pieds du faux pas. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants.
Lecture de la lettre de Saint Jacques. Mes frères, si quelqu'un prétend avoir la foi sans la mettre à l'œuvre, à quoi cela sert-il? Sa foi peut-elle le sauver? Supposons qu'un frère ou une sœur n'ait pas de quoi s'habiller, ni de quoi manger tous les jours. Si l'un de vous leur dit « Allez en paix, mettez-vous au chaud et mangez à votre faim », sans lui donner le nécessaire pour vivre, à quoi cela sert-il? Ainsi donc, la foi, si elle n'est pas mise en œuvre, est bel et bien morte. En revanche, on va dire, toi, tu as la foi, moi, j'ai les œuvres. Montre-moi donc ta foi sans les œuvres. Moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi, la foi. Parole du Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia.
Alléluia, Alléluia, Alléluia. l'évangile de Jésus-Christ, notre Seigneur, selon saint Marc.
Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, Jésus s'en alla, et s'en alla ainsi que ses disciples vers les villages situés aux environs de Césarée de Philippe. Il faisait route et Jésus interroge ses disciples et il dit, au dire des gens, qui c'est? Et eux, ils lui répondent, pour les gens, tu es Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres, un des prophètes. Mais lui, Jésus, les interrogeait, eux, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Pierre prit alors la parole et lui dit, tu es le Messie. Alors Jésus leur défendit vivement de parler de lui à qui que ce soit. Et il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué, mais que 3 jours après, il ressuscite. Et Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre alors le prit à part et il se met à lui faire de vifs reproches. Alors Jésus se retourna et regardant ses disciples, il interpella vivement Pierre, passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Appelant la foule avec ses disciples, Jésus leur dit, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix, et qu'il me suive, parce que celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie, à cause de moi et de l'évangile, la trouvera. Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur.
Que ton évangile, Seigneur, se répande avec son huile vivifiante sur toute la surface de la terre. Qu'elle pénètre en bénédiction palpitante toute chair assoiffée de sainteté toute pure, qu'ils puissent voir s'ouvrir devant leurs yeux, dès cette terre, les portes de la Jérusalem d'en haut, libérées de toute entrave, rendues pures de toute faute au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.
Louange à toi.
Alléluia. Louange à toi. Alléluia. Louange à toi. Alléluia. Louange à toi. Alléluia. Louange à toi. Alléluia. Louange à toi. Alléluia.
Vous voyez ça, qu'est-ce que j'aimerais bien avoir une apparition de Jésus. Apparition. Amen. Amen. Une apparition de Jésus. Alors, il apparaît, et puis il va me dire des paroles extraordinaires. Hein, français. Passe derrière moi, Satan. Passe derrière moi, Satan. Tes pensées sont des pensées humaines. Il s'adresse au pape quand même. Oh, si le pape pouvait avoir une apparition. Alléluia. On prie pour le Saint-Père pour qu'il ait une apparition. C'est beau ça. Dieu est notre créateur. Dieu est notre providence. Dieu est notre Seigneur. Dieu est notre juge. Dieu est notre Père. Il y a beaucoup de faces, on a vu ça. L'apparition de Jésus, hein, de ce matin. Il est apparu ce matin. C'est impressionnant. Hein. Ces deux ailes gigantesques qui se touchent ici là-haut. Pendant que les deux autres, elles couvraient tout mon corps spirituel. Impressionnant. Ces cercles éternels qui faisaient palpiter la foudre, le vermeil et l'océan. Le sommet là-haut et dedans aussi. Un trône et celui qui était assis dessus. Les quatre visages. Et chacun des quatre visages avait, c'était une sainte face. Vivante, hein, ils avançaient de manière. Ils avaient cette droite devant eux, quoi. Avec la vitesse de l'éternité. Des cercles. La foudre. L'apparition de Jésus, c'est quelque chose, hein. L'apparition de Jésus à Ézéchiel, chapitre 1, verset 1 à 24. Voilà. On voit bien, donc c'est sûr que l'évangile, la Bible, tout ça nous montre bien que personne n'y comprend rien à Jésus. C'est pas vrai, personne n'y comprend rien. Et en même temps, Jésus, il se garde bien que les gens puissent comprendre quelque chose. Il se garde bien de ça. Moins ils comprennent, plus ce sera facile pour moi. Moins ils comprennent, regardez, après. Oh, on aime Jésus, c'est sûr. On ne peut pas dire qu'on n'aime pas Jésus, mais de là à comprendre, c'est autre chose. Hein. Voilà, et oui, effectivement, là, bon, c'est pour notre culture personnelle. Les Juifs pensaient que ce ne serait pas la même. Regardez, qui est pour vous, qui suis-je? Le grand prophète, le grand Messie. Le Messie qui dit ouvertement ce que Dieu est en lui-même, le grand prophète, le Messie, quoi, le Messie d'Israël, dans toute sa gloire. Le serviteur souffrant, l'agneau. Le Fils de Dieu, la grâce capitale, la source de la sainteté finale de tous les saluts. Ou Dieu le Fils de l'homme, venant sur les nuées du ciel. C'est les quatre visages. Ils pensaient que ce serait quatre personnes différentes. Parce qu'ils écoutaient les messages. Et ils étaient convaincus dans les messages. Ben, voilà, c'est pas le même quand même. Et on ne peut entendre une prophétie, un message venu de Dieu pourtant. Qu'après que ce soit réalisé, hein, s'imaginer, quoi. Que... Et pourtant, hein, ces quatre visages, ces quatre faces, ces quatre vivants, ces quatre êtres de vie qui font les quatre hypostases du nom d'Elohim. Oh. Avec ces ailes-là qui se montent comme ça. Et qui se soignent. Ah, ça, c'est extraordinaire, n'empêche ça. Et puis les deux autres qui couvrent mon corps spirituel. Et toute cette splendeur, cette mer de cristal, transparente, à l'infinie profondeur de l'éternité des cercles. Quelquefois, les gens traduisent, ah, vous voyez, c'était des soucoupes volantes. C'est pitoyable. Non, non, on va pas aller sur les choses pitoyables. Les cercles, ces cercles vivants qui font l'éternité de Dieu. C'est Saint Denis l'Areopagite qui explique tout ça. Que l'éternité de Dieu resplendit à travers la création. Voilà, dans une vie qui implique l'éternité, qui implique la transverbération de toutes choses, c'est-à-dire l'inhabitation de la vie foudroyante de Dieu. Et en même temps la verticale, la transcendance. Les anges vivent de ces trois. Ils n'ont pas quatre visages, les anges, ils n'ont que trois. Cercle, la transversale et la verticale. Mais attention, le cercle ancré dans le cré, la transversale ancrée dans le cré et la verticale ancrée dans le cré. Ça qu'on voit. Et pour le je suis de Dieu, du Messie, du Christ. Enfin, ils sont quatre. Enfin, il y a quatre visages pour ça. D'ailleurs, vous le savez, c'est pas moi qui vous l'apprends. Il y a quatre évangiles à cause de ça. Il y a quatre. Voilà, il est la victime, il est le roi, la source de toute vie éternelle. Il est le principe, il est le Dieu vivant, source de vie éternelle. C'est le lion, la sainteté, l'état pur, et toute participation à sa sainteté fait la substance intérieure et éternelle des engendrés éternels de Dieu que nous sommes. Puis, bon, il est le, ça c'est ça, c'est, il est le Fils de Dieu, ça veut dire. C'est sûr, il est le Messie, c'est sûr, il est le Messie. Il est la lumière. C'est le grand prophète. C'est pour ça, les grands gens répondent ça. Ben, c'est lui le grand prophète. Ça peut être que le grand prophète. C'est évident que c'est le grand prophète. Et Jésus dit, je suis... La réponse qu'il fait, enfin du moins c'est pas la réponse, Saint-Pierre lui dit, tu es le Messie. Ah, voilà. Tu es le Messie. Tu es le Messie, tu es le Messie. En disant le Messie et Machiar ben David, quand tu dis c'est le Messie et Machiar ben David, c'est dommage qu'on n'ait pas le texte araméen, parce qu'il y a la substance qui exprime la divinité, la messianité et la royauté. Alors Jésus va compléter, ah, il dit, ne dites pas ça, parce que, ne dites pas, je vous interdis de le dire, parce que c'est vrai, mais il manque aussi ce fait qu'il est le Fils de l'homme, c'est-à-dire qu'il est le Dieu vivant. C'est Dieu qui est vivant dans la nature humaine entière, et nous, c'est notre nature, la nature humaine. Et il est le Dieu vivant dans la nature humaine entière. C'est impossible de penser Jésus sans penser le corps mystique. De la Jérusalem glorieuse accomplie. Et ça, tu vois, tu ne l'as pas dit. Et pour que ça soit possible, eh bien, bien sûr, il faut que ce soit les quatre. Il nous a rachetés, il a payé la rançon. Le démon dit, la nature humaine ne peut pas. ne peut pas. La nature humaine, elle tombe. Elle est entre mes mains. La nature humaine, elle ne peut pas. Elle ne peut pas. C'est pas possible. C'est pas possible. Les pharisiens, c'est pareil. C'est pas possible. C'est pas possible. Qu'on soit, quand on se trouve devant l'apparition de Jésus, que devant Jésus, quoi. On entend Jésus, quoi. On mange Jésus, quoi. On espère Jésus. C'est pas possible que Jésus soit Dieu. Dieu qui prend la nature humaine toute entière comme étant ça. Donc notre nature aussi. En une seule hypostase. Et d'ailleurs, on voit bien quand le grand prêtre lui dit à Matthieu, alors, est-ce que tu es le Messie ? Mashiach. Adonai. Ben Elohim. Panesh. Jésus répond, c'est toi-même qui viens de le dire. Je suis les quatre en même temps. Alors là, il a déchiré. Rideau du temple du grand prêtre s'est déchiré, quoi. C'est un blasphème qu'un seul homme puisse être Dieu à lui tout entier dans toute la nature humaine, dans toutes les créations humaines, depuis Adam jusqu'à la fin. Il manquait quelque chose à Israël. Ce qui manquait, vous voyez, quand on a parlé avec les jeunes qui étaient là, Philippe et tout. Il leur manquait pas le mystère de la très sainte Trinité. Hein. Ab Elohim, Ben Elohim, Arkadesh Elohim. Shalosat Barad, Arad Beshloshad. C'est pas le mystère de la très sainte Trinité. Là où il y a eu la chute, c'est sur le Messie. Ils ont buté sur le Messie, ils ont buté sur la pierre angulaire, ils ont buté sur le roc. Ils sont tombés. Parce que la nature humaine, Jésus l'aime. Il l'a embrassé et il est pleinement homme. Donc la nature humaine qui est la sienne, dans l'individuation de sa subsistance dans le Verbe, cette nature humaine est totalement la sienne. Il est totalement humain. Son âme est complètement humaine. Son cœur spirituel est complètement un cœur spirituel humain. Sa volonté humaine est une volonté purement humaine. Son intelligence humaine est une intelligence purement humaine. Sa liberté originelle est une liberté d'innocence purement humaine. Son corps est un corps purement humain. Sa chair, son sang, sa lumière, son âme aussi, est purement humaine. Et il l'a assumé. Donc, il l'a assumé, on veut dire par là que il est descendu. Personne n'est descendu s'il n'est déjà monté. Nul n'est monté au ciel s'il n'est d'abord descendu du ciel. Et c'est une double assomption. C'est comme la nature humaine, dans le principe de l'Immaculée Conception, est complètement assumée par le Verbe. Et cette nature humaine assume complètement le Verbe de Dieu. L'assomption du Fiat de Marie permet l'assomption par la nature humaine de la nature divine du Verbe de Dieu. Cette double assomption qui fait une seule union hypostatique, c'est quelque chose qui s'est réalisé pour que il puisse payer la rançon. Pour qu'il puisse payer la rançon. Et le rachat. La nature humaine doit être entièrement, en entièrement rejetait. La croix, la souffrance, qui doit saisir toutes les parties intensives et extensives de sa nature humaine dans toutes ses puissances. Dans toutes ses puissances à la fois. Il n'y a aucun répit dans aucune de ses puissances. Lorsque il nous regarde, il voit cela. C'est cet amour qui l'engloutit dans la nature humaine pour racheter le désastre qui s'opère lorsque nous faisons une simple faute. Parce que pour nous, c'est une simple faute. C'est pas grave. Et c'est bizarre, ça, vous voyez, parce qu'on dit c'est pas grave, parce que de toute façon, Jésus nous pardonne, et le bon Dieu est miséricordieux, oui, mais... comme il le paye cher. C'est vrai, tu prends un canon. Seigneur me pardonne. Je l'aime et il m'aime. C'est ça qui compte. Il est miséricordieux. C'est vrai. C'est pas faux. Mais il est serviteur souffrant aussi. C'est le bouc émissaire. C'est là. Et le tourment qui l'inflige jusqu'à l'impossible, parce que vous savez très bien que la saisie de la toute-puissance divine, de son intériorité éternelle, lorsqu'elle assume la nature humaine qui doit être torturée, broyée, enfin traite, le mot souffrance ne va pas. Est tellement, l'unité est tellement forte, comme disait saint Augustin, entre cette nature humaine, toutes ses puissances, et puis ça, l'acte pur de sa éternité, d'abord. Cette unité est tellement forte qu'elle engloutit en cette unité elle-même la personne humaine. La personne humaine n'existe pas en Jésus. Il y a son âme, oui, il y a tout ce que je vous ai dit, tout ce qui fait un être humain. Il est pleinement homme, il est l'homme en plénitude. Il est la plénitude et il va jusqu'au fond de toutes les puissances et de toutes les parties intensives et extensives de notre nature. Et il atteint d'ailleurs chacun d'entre nous dans toutes les parties intensives et extensives de notre nature. Il les porte, il les vit. C'est son espace vivant dès qu'il s'incarne. Et donc il doit payer pour nous. Mais l'unité est tellement forte que ça, il faut qu'elle soit tellement forte, si forte que sa personne humaine disparaisse. Et c'est pour ça qu'il a expliqué aux apôtres, et c'est le premier concile qui ait jamais été créé dans l'Église catholique, il n'y a qu'une seule personne, il n'y a pas deux personnes dans le Christ, il n'y a pas la personne divine et la personne humaine. La personne humaine, l'unité est tellement forte que même métaphysiquement, dans le cercle de l'éternité, dans la transcendance de l'au-delà de toute vie et dans la transversale, si vous voulez. Donc dans la traversée substantielle de toute la nature humaine et de toute création qu'il assume. La personne humaine est disparue dans l'unité, parce que c'est une unité tellement forte qu'elle fait qu'il n'y a qu'une seule personne. Et c'est la personne de Dieu. C'est ça que ça veut dire, je suis le Fils de l'homme. En tout cas, les Juifs le comprenaient comme ça. Ça veut dire Dieu qui anéantit la personne humaine et saisit la nature humaine en elle-même. C'est comme ça. C'est comme, parce qu'il n'y a pas de personne humaine dans Jésus. Mais comme il n'y a pas de personne humaine, et bien du coup, toute sa divinité d'amour, de lumière, d'éternité, rentre dans toute la puissance de la nature humaine et donc dans notre nature à nous. S'il y avait une personne humaine dans le Christ, ça ne pourrait pas se faire, ça. Parce que la personne, n'est-ce pas, c'est une... Voilà, c'est une hypostase. De nature spirituelle. Et individuée. Et donc, l'unité est tellement forte d'amour entre la nature humaine et la nature divine dans le Christ, en Jésus, que la personne humaine disparaît. Du coup, c'est toute la nature humaine, vous voyez. C'est beau, saint Thomas d'Aquin, pour expliquer ça, c'est pas mal. C'est pas saint Thomas d'Aquin, premier concile de Constantinople. C'est drôlement important de comprendre ça, vous savez, parce qu'il faut contempler quand même ce qui se passe quand même quand ils incarnent. Il s'investit, quoi, dans notre nature humaine, dans les moindres replis de notre péché. On dit, oh, bon, tout ça ferait, hein, j'irai me confesser. Je veux bien, mais c'est, je dis pas qu'il faut pas se confesser, c'est pas ça. Je dis, si on voit ce que ça représente comme... c'est épouvantable. Marie, elle le voit, ça. Quand on fait un péché, elle voit ce que ça représente comme épouvante. C'est épouvantable. Comme désastre. C'est pas seulement une torture, si c'était qu'une torture, j'allais dire. C'est vrai, un point d'orgueil quand même. C'est pas rien, vous savez. Ça fait mal. D'ailleurs, on n'appelle pas ça mal pour rien. Hein? Ça fait mal. C'est le mal absolu. Et donc voilà, si les enfants de Dieu ne sont pas fidèles, bon, voilà, s'ils se regardent eux-mêmes, je veux dire, au lieu d'être à l'intérieur de toutes les pauvretés et faiblesses du prochain. Si dès que j'ai une pauvreté, une faiblesse chez le prochain, tout de suite je réagis en m'énervant, ou en m'impatientant, ou en jugeant, en disant, voilà. C'est ce que dit l'Épître de Saint-Jacques, il dit, ça va pas, ça. Si t'as la foi, ton prochain t'énerve pas, tu le juges pas, c'est... C'est impossible. Ça fait beaucoup de mal, ça. Beaucoup, beaucoup de mal. Non, c'est toujours de l'amour, de la joie, une sérénité, une paix. Une paix, c'est-à-dire une inhabitation pacifique sans la moindre ombre entre nous, avec nos ennemis. Il n'y a pas la moindre ombre dans l'unité pacifique et pacifiante avec notre ennemi, le pire qui soit. C'est ça qui fait la bonté de la nature humaine. C'est ça qui fait la bienveillance, que du coup je vois le bien de Dieu partout. C'est ça qui fait la magnificité de l'enfant éternel de Dieu, qui est l'homme, l'image et ressemblance. C'est ça qui fait la fidélité de la foi. C'est ça qui fait la patience, c'est-à-dire l'ouverture à la brûlure de l'éternité glorieuse de Dieu, qui glorifie de l'intérieur de Dieu lui-même, déjà en nous, de cette terre. C'est ça qui fait que le corps spirituel est un seul corps spirituel. Voilà, j'ai fait la liste, hein, Galates, chapitre 5, verset 25. 5 fois 5. Voilà ce que vit la nature humaine normale, celui qui est absous, quoi, celui qui fait partie qui a accepté de rentrer dans la vraie vie, qui a accepté de dire oui, me voici. C'est pas l'esprit du monde, hein, c'est évident que c'est pas l'esprit du monde. L'esprit du monde, c'est quoi? L'esprit du monde, c'est je fais ce que je peux, je fais tout ce qui est en mon pouvoir, je fais tous les efforts possibles. Mais tous les efforts possibles, hein, mais vraiment tous les efforts possibles, je fais tout ce qu'il faut. Et tout ce que je peux, et même le maximum, je fais tout. Et je trouve que ça suffit, et que c'est très bien. Ça c'est tragique hein, quand vous entendez, vous voyez ça comme ça. Hein. C'est vraiment c'est la tragédie quoi. C'est la tragédie. C'est tragique. Mais non, pas ça. C'est ce que dit l'Épître de Saint-Jacques, c'est pas la foi. La foi sans les œuvres. Les œuvres c'est quoi? C'est le travail, c'est la transformation. Opus Dei, sans les œuvres. C'est vis-à-vis du prochain et tu as. Dieu a détruit toutes les obstacles, toutes les ombres. Dieu a détruit toutes les ombres. Il a tout enlevé. Il a tout enlevé. Tout, tout, tout. Il a racheté très cher le moindre de nos possibilités d'énervement.
Il ronfle.
C'est vrai. C'est toi.
Et donc le travail de Dieu dans l'oraison fait la transformation de notre nature humaine. Si tu as la foi et que tu n'as pas la transformation dans le mariage spirituel accompli, j'allais dire, c'est que tu n'as rien fait. Comment ça? J'ai fait tout ce qu'il faut. J'ai fait tout ce qu'il faut. Mais non, c'est Jésus qui fait tout ce qu'il faut. C'est Jésus qui a embrassé la nature humaine. Si Jésus n'avait pas embrassé la nature humaine, où est-ce que c'est strictement impossible? J'aurais beau faire des milliards de fois plus d'efforts que l'effort maximum que je fais avec mon maximum de générosité, que je n'aurais même pas commencé le premier millimètre de ma vie chrétienne. Même dans la foi et l'espérance de la charité. Hein. Si la charité surnaturelle peut être un peu. Et donc les Juifs ne savaient pas. Ils ne savaient pas que c'était le même. Que c'était. Puisqu'ils ne pouvaient pas deviner que c'était pas une personne humaine. Et ils n'avaient pas saint Thomas d'Aquin, vous comprenez? Ils n'étaient pas catholiques. Ils ne connaissaient pas saint Thomas d'Aquin. Bon, ici, vous, c'est différent. Vous êtes des Juifs, mais vous connaissez saint Thomas d'Aquin. Enfin, vous êtes catholique, je veux dire par là. Vous êtes dans la foi. Et quand vous êtes dans la foi, quand vous voyez Jésus, c'est pas qu'on devine, c'est on sait que c'est pas une personne humaine, et que c'est Dieu qui va rentrer dans l'épouvante. C'est Dieu. Qui va rentrer. Et c'est pas pour des broutilles. Comment ça? Tu penses que c'est une broutille, toi? Non. C'est épouvantable. Relisez un petit peu Missale de Gethsemane, l'agonie. C'est fou quoi. Et ce qu'il y a, c'est que, en plus, que je trouve vraiment admirable, enfin, je sais pas, complètement étourdissant, c'est même quand Jésus est enfant, quoi. Il est à égalité de souffrance. D'épouvante, de rédemption, d'agonie, quand il est sur la croix, quoi. Pareil. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de personne humaine dans lui. L'unité est tellement forte, saint Augustin dit, l'unité est tellement forte entre sa nature divine dans la personne qu'il est éternellement, et puis la nature humaine dans laquelle il s'engloutit pour l'épouvante. Ah, il vient de racheter. Il vient pas seulement réparer, c'est réparer, bon. Il vient faire un travail de transformation totale, quoi. Donc la foi sans les œuvres, sans cette transformation totale en nous jusqu'à l'accomplissement éternel, c'est une blague. Et cette unité tellement forte entre l'homme, c'est un mariage tellement fort entre Dieu et l'homme dans Jésus, qui a le visage de Jésus, que cette unité est tellement forte qu'elle est plus forte. Et c'est ça qui est très extraordinaire aussi à dire, qu'elle est plus forte que l'unité qu'il y a entre les trois personnes et la très sainte Trinité pour faire l'unité d'une seule nature divine. Parce que dans les trois personnes divines, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, sont dans une unité très très forte, mais ça ne détruit pas la distinction hypostatique des personnes. Les personnes restent des personnes. Tandis que dans le mariage de Jésus avec la nature humaine, la personne est engloutie. Donc l'unité est beaucoup plus forte dans l'incarnation du mystère de Jésus, dans le mystère de la très sainte Trinité, dans l'unité éternelle de leur unique subsistance, éternelle et agréée. Donc l'unité se fait entre le Père et le Fils est très 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 très. Est-ce qu'on peut imaginer une unité plus forte? Oui. Qui la dépasse, oui. Dieu se fait homme. L'unité entre l'homme et Jésus et Dieu en Jésus dépasse l'unité. Et heureusement, parce que sinon, comment est-ce qu'il y aurait pu y avoir la participation corps rédemptrice de l'Immaculée Conception avec la puissance de l'Esprit Saint? Comment y aurait-il pu y avoir la participation corps rédemptrice de la paternité agréée de Dieu, comme on l'a vu hier, dans le trône, vous voyez, de la responsabilité, le roc? Comment y a-t-il pu y avoir cette participation de Dieu tout entier dans cette rédemption du monde à travers des humanités de substitution? Comment y aurait pu y avoir c'est pas rien, vous avez grandi, je crois, en l'Église catholique et en son indivisible unité. L'Église indivise, comme disent les orthodoxes. Cette unité-là, il faut pour qu'elle soit possible que toute la nature humaine sensible, très 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 sensible, extrêmement sensible, presque infiniment sensible, parce que l'infini c'est un schéma imaginatif, de Jésus soit livré à la torture jusqu'à la disparition totale à cause d'une souffrance super substantiel. Et en plus de ça, l'unité entre la nature humaine et la nature divine étant supérieure à l'unité entre le Père et le Fils et Saint-Esprit dans l'unité agréée éternelle, à cause de ça, allant si loin qu'ils puissent vivre des milliards et des éternelles morts même et souffrances, il ne peut pas mourir. Donc, c'est de la souffrance à l'état pur. C'est de la tourment à l'état pur. Et c'est pour ça qu'il dit, et vous, pour vous, est-ce que vous avez un peu d'amour pour moi? Je suis qui? Pour vous. Est-ce que vous avez un peu d'amour? Est-ce que vous regardez un peu? Là, je suis le fils de l'homme, là, ça, c'est... Là, évidemment, c'est le fils de l'homme, c'est Dieu qui revient et prend la nature humaine tout entière de manière explicite, visible et pour toujours. C'est à la fin du monde. Tu vas voir, c'était le fils de l'homme. Crucifiez-le. Crucifiez-le. Et vous verrez bien que lui, c'est le serviteur souffrant, peut-être. Mais le fils de l'homme, non. C'est ça qu'il pensait. Hein. Par exemple, la maman d'Edith Stein qui a été mort à Auschwitz. Hein. Edith Stein se fait carmélite. C'est une des grandes, grandes intellectuelles juives. Quoi. C'est des années 39, quoi, des années 30. Celle qui corrigeait quand même Heidegger, disciple de Husserl. C'est pas une petite pointure, hein, Edith Stein. Bon, elle lit Sainte-Thérèse d'Avila et voilà. elle demande le baptême, elle est carmélite, d'accord. Mais sa mère était... Mais se tordait, disait, c'est pas possible. Pourquoi? Elle disait, mais... Vous connaissez, elle dit, ma mère dit, mais Jésus, mais pourquoi est-ce qu'il a dit qu'il était Dieu? Qu'il soit le Christ, qu'il soit le Messie, qu'il soit tout ce que vous voulez, le Rédempteur, le Sauveur de tous les hommes, de tout, mais le Dieu vivant, hein, qui prend tous les hommes. Hein. Bon, encore, qui prennent tous les élus vivants d'Israël. Ça aurait été les goïms. En enfer, n'est-ce pas? Les mauvais, quoi. En enfer. Non. Il vient pour tout le monde. Il vient pour tout le monde. Et vous voyez, c'est extraordinaire. Ça ne supprime pas l'enfer. Pourtant. Pourtant, dans les souffrances de Jésus, il y avait de quoi supprimer l'enfer. Puisqu'il a souffert dans son humanité de quoi éteindre toutes les souffrances de l'enfer sans exception, éternellement. Dans le temps de sa vie. C'est un péché, c'est pas rien, il ne faut pas croire. Hein. Je recommande les exercices de Saint Ignace. Hein. Les 10 premiers jours, c'est que des exercices pour voir ce que c'est que le péché. Quoi. Mais le voir en face, quoi. Oh, bon, ouais, ça va. Le Seigneur me pardonne quand même. Hein. Je suis vachement généreux quand même. Mais la paille qui est dans l'ordre de l'autre, ben ça, je supporte difficilement. Mais j'ai la poutre dans mon œil, c'est-à-dire j'ai la croix de Jésus devant les yeux et je ne rentre pas dedans. Je ne la contemple pas. Si je la contemplais, je ne verrais plus rien que le fruit eucharistique de sa présence. Lorsqu'il touche dans l'Eucharistie la fin du monde, c'est-à-dire les portes qui s'ouvrent du Fils de l'homme venant sur les nuées, avec tous les élus glorieux, en un seul corps, une seule nature glorifiée, un seul Dieu vivant dans la nature humaine entière. Bien sûr. C'est un théâtre prodigieux, la vie intérieure de Jésus. Un théâtre prodigieux. Un théâtre prodigieux où se joue comme ça. Le poids d'amour, le poids de lumière, le poids de béatitude, de jouissance, de délice, qui est sur lui, est tellement fort. Si jamais il n'avait pas été le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, aussitôt à sa naissance, à sa conception, ce poids aurait envahi toutes les parties intensives et extensives de sa nature humaine. Et immédiatement, on aurait été glorifiés tous sans exception, dans l'instant même. Mais comme il est le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, c'est-à-dire que sa croix pénètre, j'allais dire, cette épouvante pénètre jusque dans la substance de son union hypostatique, jusque dans l'au-delà, hein, de la mort, dans le plus que la mort. Alors à ce moment-là, il y a un poids de tourment, un poids de souffrance, un poids de tartare, un poids de châtiment, un poids, comment dire, d'injustice, un poids de détresse, un poids de mort, oui, on peut dire aucune angoisse, hein, mais une épouvante totale, un poids de croix, un poids de qui contrebalance le poids de gloire éternelle, de la gloire, de la vision béatifique qui doit emparer tous les élus de la gloire éternelle du ciel à jamais. C'est les deux contrebalances. Il y a en lui, c'est un théâtre prodigieux entre la souffrance à l'état pur et la jouissance éternelle de Dieu à l'état pur. Il n'y a aucune voile entre la nature divine, nature humaine de Jésus dans son union hypostatique. Il est dans la vision béatifique. Mais le contrepoids de croire en lui est si puissant qu'il empêche cette jouissance inouïe d'envahir toute son âme, etc. Pourquoi ? Parce que c'est la volonté du Père que tous soient sauvés. Et ça ne peut se faire que dans ce combat virginal de la croix. Et comme il va jusqu'au bout, à la demande de l'Immaculée Conception, à la demande de Saint Joseph aussi, qui vit cette offrande depuis 1290 jours, lui-même dans les fonds de la mort et de l'enfer, à la demande de l'unité sponsale de l'Esprit Saint, dans la paternité et l'aspiration active de Dieu, dans le fond de la mort, il va accepter la volonté du Père que cette unité entre eux, si forte entre sa nature humaine et sa nature divine, soit déchirée à l'intérieur même de cette unité. Et comme c'est impossible que ce soit fait par la toute-puissance du Père, puisque l'unité entre sa nature divine et sa nature humaine est tellement forte qu'elle est beaucoup plus puissante que l'unité entre le Père et le Verbe de Dieu et l'Esprit Saint. Alors cette volonté du Père va arracher la vie, l'âme, toutes les sources de la vie, de la nature humaine de Jésus, hors de son corps, de sa chair, de sa matière vivante, et la faire pénétrer à l'intérieur dans une offrande de mort et de vie, quoi. C'est un théâtre prodigieux. Et la mort va être produite de manière complètement miraculeuse par la toute-puissance du Père. Mais voyez, normalement, c'était impossible. Et c'est parce que il a cette toute-puissance de Dieu à arracher son âme hors de son corps qu'il y a eu la séparation de l'âme et du corps en lui. C'est pas parce qu'on l'a crucifié. C'est pas parce que on lui a fait le mal absolu. On dit, mais bon, quand même, c'est pas un péché qui produit autant de souffrance, quand même, ça peut se paraître dingue, ce que vous dites là. Pardon, désolé, je m'excuse, mais pour toi, c'est rien du tout de prendre une pomme, d'accord, c'est rien. Mais n'empêche que pour Dieu, c'est pas rien. Parce que Dieu nous aime. Alors, si vous aviez un peu d'amour pour moi, ce serait bien quand même, non? Dieu nous transforme dans la croix de Jésus pour qu'on soit vraiment irréprochable et immaculé, saint, en sa présence. Lui-même. Que notre je suis disparaisse dans le je suis. De Yeshua Mashiach, de Jésus, du Verbe, de Dieu lui-même. À chaque fois que je fais ça, il n'y a plus que Jésus, il n'y a plus que Dieu. Et moi, du coup, heureusement, mais ma nature humaine ne disparaît pas, mais simplement elle redevient elle-même dans la nature humaine assumée de Jésus. Et quelque part dans la cinquième demeure, c'est le mari, bon, avec le travail de transformation de la foi dans les œuvres. Ben, ma nature humaine, c'est la nature humaine de tous les autres. Je suis présent à la nature humaine de chacun des autres aussi fortement qu'à l'intérieur de ma propre nature à moi. Tant que je ne suis pas là, ça veut dire que la grâce n'est pas passée. Et ça s'appelle la cinquième demeure. Ça s'appelle le cinquième sceau de l'Apocalypse. Mais si je suis toujours à tourner autour de mes problèmes, ou de mes expériences. Ah, j'en ai fait des expériences, hein. Je suis parti Toutes nos expériences personnelles, voyez, dans le repos du Saint-Esprit, etc., ont quelque chose de trompeur, de gravement trompeur. Elles démontrent un attachement encore beaucoup trop grand à ce que vit mon âme dans le péché, c'est-à-dire dans la désunité profonde du péché. Lorsque on n'a plus d'expérience humaine, religieuse, chrétienne, lorsqu'on est dans la grâce sanctifiante, ni en bien ni en mal. Le mal qui est en nous peut déborder presque à l'infini, le bien peut déborder en nous presque à l'infini. C'est exactement pareil pour nous, dès qu'on est dans la grâce sanctifiante. On s'aime autant qu'on aime les autres. Si c'est le mal absolu qui dégouline de nous, si c'est le bien absolu qui dégouline de nous, pour nous c'est exactement la même chose. On s'en fiche complètement. Enfin, Jésus existe quand même, non? Ah non, mais moi je fais attention, hein. Oh là là, Seigneur, me laisse pas là dans ce truc-là, je préfère qu'il y ait le bien absolu en moi. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pourquoi tu crois que tu es sauvé parce que tu as le bien absolu en toi qui dégouline sans arrêt? Tu vois, ça n'a pas réussi à Dariev apparemment, hein. Mais en Immaculée Conception, bah. Elle. Elle était éperdue, disparue dans la tourmente du Christ. Il n'y avait plus que le Christ en tourmente. Il n'y a plus que le Christ en tourmente. Et c'est tellement fort, parce qu'elle est liée à la nature humaine jusqu'à la fin du monde, que du coup elle engendre la présence de cette tourmente. Et c'est le pain eucharistique qui vient, qu'elle engendre, la mère de l'eucharistie, de la présence de la tourmente totale, substantielle de Jésus crucifié. Dans le pain eucharistique, adapté à chacun, adapté à chacun, adapté à chacun. Et jusqu'à la fin du monde, si le pain était là, il n'y aurait pas eu la présence réelle, oui, cette tourmente victimale du Fils de l'homme venant sur les nuées pour atteindre jusqu'au bout l'accomplissement en plénitude reçu de portes qui doivent s'ouvrir pour le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel. On appelle ça le baiser du véritable amour, sixième demeure. La vie chrétienne, c'est le passage de la cinquième à la sixième demeure. Quand est-ce que nous comprendrons ça? C'est quand même pas compliqué, hein. Et les expériences, vous voyez, charismatiques, chrétiennes, qu'on fait, je veux bien, mais c'est pas la foi. La foi, elle est liée aux œuvres. Et l'œuvre, c'est la transformation. Et la transformation, c'est Dieu qui l'a fait. Voilà. C'est pour ça que c'est pas mauvais, vous voyez, de regarder ces apparitions dans le livre d'Ézéchiel. Lorsque on est tellement aspiré dans cette apparition, que c'est cette apparition qui fait vivre la nature humaine tout entière de tous les temps à travers la nôtre. Voilà, pendant 10 minutes de suspension, on passe ensuite à l'apparition. Johannique de l'Apocalypse, qui est exactement la même d'ailleurs, avec des nuances extraordinairement intéressantes près, mais justement on voit un petit peu l'avancée dans l'œuvre de Dieu. D'Ézéchiel à Jean, entre les deux, Marie passée par là dans sa co-rédemption, et Joseph aussi. En tout cas, une chose est sûre, hein, c'est que il faut pas se tromper soi-même, hein, et les Juifs se sont trompés, ils ont bien accepté de se laisser tromper eux-mêmes. en s'attachant à leur manière de voir, à ce que la Bible disait, la révélation, donc ils étaient sûrs de ne pas se tromper. Et pourtant, ils se sont trompés grandement. Alors, comme on est proche justement de l'épreuve équivalente pour le nouvel Israël de Dieu, eh bien, il faut prendre garde. Il faut entendre l'apparition de Jésus qui nous dit ah, « Passe derrière moi, Satan. » Dès qu'il me voit, « Passe derrière moi, Satan. » Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu. Ce sont les pensées humaines d'une humanité qui veut se préserver comme nature humaine, alors que Dieu, lui, il aime la nature humaine, c'est tout à fait différent. Il la rachète. En la rachetant au péché. Dans la tourmente, parce qu'il doit respecter la moindre nuance de liberté humaine. Donc il ne peut pas le faire contre nous. Il a besoin de notre coopération à l'identique, en affinité avec lui. Et avec la même intensité d'amour de la croix que lui. S'il n'y a pas de co-rédemption, il n'y a pas de rédemption du tout. Et donc, le plus petit millimètre hein, où on tombe dans la tentation, le petit millimètre de rien, tout même la petite tentation, vous voyez, le tout petit, plus petit millimètre de rien du tout, on accepte au fond une tentation, la tentation. Si qu'on perd, ne serait-ce que très très peu de temps, c'est pas grave. C'est satanique. On ne doit pas supporter pour nous le péché. En rien. Et jamais. Et jusqu'à la fin. Ah, on est tout à fait d'accord. On sait très bien que c'est vrai. On sait très bien que c'est vrai. Mais pour en avoir, j'allais dire, pour être transformé au point que ce soit normal, facile, une seconde nature pour nous d'être comme ça. Comment tu fais? La foi avec les œuvres. Il faut la transformation divine. Le Saint-Esprit et le Père, le Verbe de Dieu, doivent être autorisés à envahir entièrement toutes nos puissances, continuellement. Mais d'abord un peu, mais ensuite dans des moments, quoi. Mais de manière que notre union à Dieu soit terrible. Alors à ce moment-là, il peut écarter toute possibilité de notre volonté d'éloigner immédiatement le mal dès qu'il s'approche de nous et que aussitôt, immédiatement, il s'éloigne de notre terre. Voilà ce qu'on peut dire, hein, ça. Première veine de la croix glorieuse. Allez, 24e dimanche. 8e plus 8e plus 8e. Hein, c'est 888. Voilà, la première veine de la croix glorieuse. C'est le Christ entier. Vivant et entier. Ce serait bien si on pouvait, comme Saint Joseph, voyez, même si on ne l'a pas vu de nos propres yeux en direct, vivre du mystère de la croix avant qu'on l'ait vu en direct. Parce qu'on ne l'a pas vu en direct. Vous voyez ? Le voir, et puis voir et le laisser. la liberté à Jésus-Christ crucifié de réaliser sa rédemption. Que sa croix pénètre en nous, quoi. On lui laisse l'autorisation de réaliser cette ténèbre, si je puis dire, hein, qui est la sienne, pas la nôtre, hein, cette ténèbre qui est la sienne. Et du coup, dans cette ténèbre, lorsqu'elle nous envahit complètement, on ne peut pas ne pas faire autre chose que de crier un cri d'allégresse, de bondir de joie, parce que du coup, ça y est, on peut bondir avec notre cœur dans un amour purement divin, purement théologal, surgissant directement d'amour agréé, éternel de l'aspiration, la charité. Nous sommes des sources de lumière éternelle. Si la transformation, c'est ça le problème, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord. C'est pas donné comme ça, je suis baptisé, j'ai communié, ça y est, donc ça devient facile. Mais non, c'est le fruit des sacrements dans la transformation de la raison. Là, oui, c'est facile, ça coule tout simplement, hein, comme une seconde nature. Bon, on le sait ça, puisqu'on l'a entendu des milliers de fois, mais on le sait. On le sait, mais pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Ah! On le sait. Mais pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? En fait, ce que je viens de dire n'est pas vrai. On ne le sait pas. Et du coup, ça se fait. C'est dans la nuit à quoi c'est de l'âme. Dans la nuit totale de la foi. Qui est une chose strictement et totalement impossible pour Jésus. Il ne sait pas ce que c'est que la nuit, quoi c'est de l'âme. Il ne sait pas ce que c'est que la nuit profonde de la foi. Il ne le sait pas. Il l'ignore. C'est impossible pour lui de savoir ce que ça veut dire. Ce que c'est. Et cette nuit, à quoi c'est de l'âme, cette nuit profonde de la foi, dans laquelle nous enfonçons, nous englutissons, nous allons mourir, nous évanouir, nous, dans un tourment de désir pour nous donner entièrement. Dans cette nuit ce néant, cette nuit à croiser de l'âme par la foi, ça c'est strictement impossible, a une valeur égale à la ténèbre que Jésus a assumée dans le mystère de la croix, qu'il continue à assumer d'ailleurs, dans sa présence eucharistique, victimale. L'acte de foi, c'est l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu, c'est l'acte de foi. Et j'y vois rien, mais en tout cas, je dis oui, quoi qu'il arrive, pour cet enfoncement dans la ténèbre, de la lumière, de la foi. Et si une fois que je suis entièrement, il n'y a plus que la lumière, la ténèbre totale, totale, je dis, vraiment, je vois rien, je ne sais rien. Je sais beaucoup de choses quand même, mais je ne sais rien en réalité par rapport. Parce que je ne suis pas arrivé, je n'ai pas commencé, du coup je sais rien, pas, je sais par connaissance, mais je sais rien par expérience. L'âme, c'est l'expérience, hein, donc la connaissance, c'est l'intellect possible, c'est tout. Ça vaut rien. Il suffit d'un accident vasculo-cérébral, ce que tu sais, ça disparaît. Seigneur, donne-moi des AVC, que je puisse comprendre que ce que je sais, c'est pas vrai. Mais l'expérience que j'en fais, l'expérience, voyez, je m'enfonce comme ça, dans la nuit de la foi. Je laisse cette nuit, cette ténèbre. Plus je suis uni à Jésus-Christ, je laisse pénétrer ce théâtre prodigieux du contrepoids de la croix en lui, avec la vision béatifique que je n'ai pas encore moi-même. Plus cette nuit ténébreuse de la foi m'envahit, plus. Je suis dans la nuit totale, 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 dans la ténèbre la plus totale. Plus je m'y enfonce, plus je vis, plus je vis dans cette ténèbre, la nuit à cause de là, plus je peux percevoir à l'intérieur de moi ce désir de Dieu. Alors je veux voir Dieu. Toc, je suis dans la lumière. Né de la lumière. L'objet de la foi nous mérite d'être en affinité avec la lumière, née de la lumière. L'objet de la foi, c'est Dieu lui-même. Et bien pour Jésus, ça, c'est strictement impossible. Il n'a jamais eu fait un acte de foi. Puisqu'il est dans la lumière. Il est la lumière. Il est le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel. Il le voit. Il en fait l'expérience totale, complète de cette supplication dans tous les hommes, sans exception. Et donc quand il voit des gens comme Marie, comme Joseph, qui se donnent dans la ténèbre de la croix à fond, en donnant toute leur vie, sans l'ombre d'une hésitation à rentrer dans tous les commandements de Dieu, dans toutes les invitations divines, dans tous les appels de l'Esprit Saint, lorsqu'il voit un chrétien, quoi, il est ébloui. Parce que pour ça, c'est impossible. Parce qu'il donne tout, ce chrétien donne sa vie, Marie donne toute sa vie. Tout son amour, son amour est tellement puissant qu'elle se donne toute entière, sans, mais d'une manière inconditionnelle, et pour chaque seconde, et pour l'éternité, sans rien voir, avec ce désir de Dieu, sans le voir. Voilà une chose, voilà quelque chose qui est admirable pour Jésus crucifié, et qui fait qu'il n'est pas le seul dans la ténèbre. Et qu'il y a un retour dans la lumière. Et qu'il y a une possibilité pour son âme de s'arracher hors de son corps. D'être pénétré dans les ouvertures de la lumière et de l'amour éternel de Dieu en tous les êtres humains dans le monde adapté de l'Eucharistie, en douceur et humilité silencieuse, à tous les hommes jusqu'à la fin. Cette production eucharistique, vous voyez, des ténèbres ensemble. Le mystère de la croix glorieuse, parce que du coup la lumière fait l'illumination de la ténèbre elle-même. Tant qu'il y a la ténèbre, c'est que nous commençons à voir la lumière. Notre lumière, c'est la ténèbre. De même qu'il y a une identité totale entre la nature divine, vous voyez, et puis la nature humaine de Jésus en une seule personne, de même il y a une identité totale entre la ténèbre de la croix, si grande qu'elle soit, et la ténèbre de la foi. Notre foi, c'est celle de Marie. Hein. Et on se donne, on se livre inconditionnellement dans un amour sans limite et sans fin. Ça veut dire, on rentre dans une vie immaculée, sans... De dire sans péché, c'est ridicule, mais... Où c'est Dieu et nous qui sommes dans une même vie éternelle, quoi. La grâce sanctifiante, c'est une vie éternelle. Comment c'est ? Et le signe qu'on est dans la grâce chrétienne, c'est qu'il n'y a plus aucun péché en nous. Je veux dire par là, le mariage spirituel n'est pas réservé à quelques-uns. C'est le passage obligatoire de tous. Donc ce que je vis, mon fils, ce que je ressens, c'est égal. Ce que... Ce que j'ai fait, n'a pas la moindre importance. Voilà. Je vous assure que c'est vrai, hein, ça fait 29 ans que je suis prêtre, 50, 60, je ne sais plus, 64 ou 65 ans que j'existe. Bon. Bah, qu'est-ce que tu fais ? Je suis comme vous, je suppose. Hein. Je trouve ça ridicule ce que j'ai fait. Tellement ridicule. J'ai pas honte. Hein. J'ai pas honte, c'est pas ça. Mais. Et en même temps, je suis très content parce que. Parce que j'admire, j'aime Jésus. Jésus, je l'aime. Ça, oui, ça, c'est évident. Mais tout ce que j'ai fait, ça me paraît ridicule. Mais aimer Jésus, c'est tout pour moi, je veux dire. C'est grandiose. Ah, avec lui, quoi que c'est. Et on est. D'aimer Jésus exactement de la même intensité. Voilà, potentiellement, comme l'Immaculée Conception elle-même. Hein. C'est une espèce de sale incréé. Et en affinité avec l'amour incréé de Dieu, surtout. Hein. Alors, ça, oui, ça. Aimer Jésus, vraiment, quoi. Ça, je suis content. Là, je suis content. Parce que ça, je sais que c'est vrai, ça. Mais les trucs que j'ai fait de bien, les miracles, j'ai ressuscité des morts, d'accord, bon, tu fais tomber la pluie, t'as été transporté en bagnole. T'as guéri des malades, t'as converti 800 personnes. Voilà, t'as arraché de l'athéisme à 1 ou 2 millions. Bon. Et alors ? Quelle blague, comme si c'est toi qui l'avais fait. Mais que tu aimes Jésus, c'est pas pareil. Hein? C'est pas. Là, on est content parce qu'on aime Jésus. Hein. Mais on aime Jésus. Voilà, c'est le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel. C'est vraiment Dieu qui s'empare de l'Immaculée, quoi. De l'unité spensale absolument parfaite, immaculée, de toutes les parties potentielles, de toute la nature, de tous les enfants de la terre et du ciel. Et toute la nature humaine est complètement absorbée dans Jésus, enfin dans Dieu, quoi. Il n'y a plus que Dieu, quoi. Ah, j'aime tellement ça. Qu'est-ce que j'aime ça? Qu'est-ce que je l'aime, hein? Quand je m'engloutis là-dedans, ma foi, qu'est-ce que vous voulez? Une transformation qui se fait, c'est une seconde nature. Hein. Ils sont bêtes, les gens qui veulent faire des martyrs, des chrétiens, parce que comment peux-tu arracher un amour de Jésus lorsque l'amour de Jésus est à l'intérieur de quelqu'un qui a l'amour de Jésus? C'est stupide. C'est même pas la peine d'essayer. C'est pas possible. Marche sur la croix. Là, ici, t'as une croix. Marche dessus, puis c'est tout. Tu vois quoi, Saint-Jean-Gabriel. Marche dessus, puis on n'en parle plus. Ça. Et il croit quoi? Que Saint-Jean-Gabriel peut avoir marché sur la croix? Non, mais je sais pas, il rêve ou quoi? Comme la petite jeune fille, laisse-toi violer, puis on n'en parle plus. Non. 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 C'est impossible. Moi, j'aime Jésus. On va juste lui drôler une palette. Non. Non. Non, c'est impossible. Moi, j'aime Jésus. C'est impossible. Oui, il y a le synode de la famille qui arrive. Alors, si on aime Jésus, quelque chose qu'on peut accepter. Non. 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 Bien sûr que non. Parce qu'un péché, c'est quand même une trahison, hein. Un petit cheveu, hein. Oh, c'est une trahison. Petit cheveu de rien du tout. Ah, oh, c'est une trahison. Une trahison. Alors quand vous voyez des gens qui ont le cœur dur, qui sont trahis un petit peu par quelqu'un, ils ne s'y attendaient pas, par quelqu'un qu'ils aiment bien, bam, aussitôt ils développent un cancer, ils en meurent. Tu penses à Jésus, hein? Quand c'est le fameux cheveu. C'est pas rien du tout, un petit cheveu de rien du tout. C'est l'amour, quoi. Si tu aimes Jésus, c'est pas pareil. Hein. Et c'est l'amour de Dieu. Hein. Qui fait le mystère de la croix, qui fait le mystère de la grâce. Qui fait la transformation. Voilà, donc on va célébrer la messe. Je vous signale quand même une chose, c'est que il faut quand même la grâce. Si c'est pas la puissance de Dieu qui opère en nous, nos propres forces humaines sont sataniques et puis c'est tout. Elles sont déçues, elles sont abominations. Mais notre nature humaine surélevée dans la sainteté d'amour de Jésus, c'est une nature humaine normale. On ne peut pas accepter une nature humaine déçue. Et encore moins une nature humaine imprégnée de Satan. C'est-à-dire dans le péché. Même le plus petit, on ne peut pas. Mais pour ça, il faut donc une force surélevante, une transformante. C'est vrai, ça. Et pour ça, il faut qu'il y ait ce pardon, il faut ce don parfait. Et c'est pour ça, donc, quand vous assistez à la messe, c'est un anniversaire d'ordination de prêtre. Donc, comme vous pouvez très bien, puisque vous êtes confessé depuis moins d'une semaine, vous pouvez très bien donc recevoir une force qui vient pas de vous, qui vient pas de nous, mais une force qui fait l'indulgence plénière, c'est-à-dire qui nous détache des moindres conséquences, des moindres séquelles, des moindres satisfactions, des moindres peines du péché, même les plus infimes, l'indulgence plénière. Quand vous communiez pour l'indulgence plénière, pour recevoir cette indulgence plénière, et du coup vous avez une force pour être arraché au péché à jamais. C'est Dieu qui fait ça. Et on laissera Dieu le faire, ça.